When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut les fous du volant, c'est reparti pour le 32e épisode de cette saison 2023 de votre podcast consacré à la Formule 1. Alors on va parler évidemment de la 50e victoire de Max Verstappen en F1, vainqueur au Texas du Grand Prix des États-Unis avec Julien Pereira qui a laissé son chapeau texan à la maison pour venir participer à ce podcast. Salut Julien.
Ouais, ça va?
Ben, moi ça
Stéphane,
va bien.
Il est encore en train de faire des petites chorés texanes.
Je crois. Prépare une chorégraphie. Alors évidemment, on va parler de cette victoire, hein, je le disais. Jap, toi tu voudrais revenir sur une sorte de mansuétude envers le Néerlandais qui règne depuis quelques temps, même pas. Alors des commissaires, mais pas que. Max Verstappen est-il favorisé? Ben, on échangera sur le sujet. Verstappen vainqueur. Et pourtant, on a pensé que Norris, et puis surtout Hamilton, avait les clés pour gagner cette épreuve à Austin. Mercedes, tout feu, tout faux. L'équipe de Toto Wolff a-t-elle gâché un Grand Prix qui leur tendait les bras? On va se poser la question et on a quelques éléments pour penser qu'ils sont quand même passés bien à côté. On reviendra aussi sur les disqualifications qui ont conclu ce week-end au Texas pour Lewis Hamilton, pour Charles Leclerc aussi, qui avait été déjà condamné par le choix stratégique de la Scuderia de ne lui faire faire qu'un seul arrêt. Pourquoi ces disqualifications? On en parle aujourd'hui dans Les Fous du Volant, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. La question fait toujours débat et elle met immanquablement le feu à tous les forums, partout où on peut s'exprimer sur les réseaux sociaux. Max Verstappen est-il favorisé en Formule 1? C'est la question qu'on va se poser, que Julien, tu as décidé de mettre sur la table des fous du volant aujourd'hui. D'abord quand même des chiffres qui sont hallucinants. Au Texas, Max Verstappen est allé chercher sa 15e victoire cette saison. Il en est à 83% de réussite cette saison. C'est la 50e victoire dans la carrière du Néerlandais.
Et même depuis 2 ans d'ailleurs.
Oui.
Ce qui est encore plus fou.
pas 50 victoires en 2 ans quand même.
Non, le pourcentage de victoires.
Ah oui, clairement. Alors d'abord, pourquoi cette question? Pourquoi est-ce qu'on devrait se demander s'il est favorisé par les commissaires et pas que? Tu insistes sur le fait qu'il n'y a pas que ça.
Bah, parce qu'on s'est quand même posé la question dès le samedi avec le départ de la course sprint, où Leclerc a été franchement tassé, on peut le dire, à l'extinction des feux. Et parce que le dimanche aussi, encore une fois avec Leclerc, je ne sais pas si c'est un hasard ou une coïncidence, il y a un dépassement qui est plus que limite avec Leclerc qui a été envoyé de l'autre côté de la piste. Et globalement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup observé ces derniers mois, ces dernières années, même avec Verstappen, qui a quand même une tendance, et ça fait partie de son pilotage, à être très agressif. Et parfois, il se soucie peu, pour être gentil, du pilote qu'il dépasse. Et là, personnellement, je trouve quand même la question se pose peut-être plus sur le samedi que sur le dimanche, parce que j'ai envie de dire que c'est un petit peu rentré dans les mœurs maintenant et que c'est quasiment une habitude. Mais samedi, il y a une vraie volonté de tasser Leclerc et de ne pas se soucier de ce qui peut se passer pour lui.
Alors, si je peux compléter ton propos, ça dépasse aussi un petit peu le cadre de ce pur week-end au Texas. Il y a eu notamment l'épisode à Singapour, où là, il y a eu une séance de qualification qui était assez incroyable.
Ouais, dans un autre style où on a vu Verstappen bloquer 2 fois des pilotes. Il y avait Tsunoda de mémoire et le deuxième, je sais plus.
Alors, je sais plus qui était le deuxième. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait Tsunoda parce que tout ce beau monde a été convoqué à la direction de course et que les représentants d'AlphaTauri ne s'y sont pas présentés. Et oui, devinez pourquoi. Voilà. Et puis, il y a eu ce moment où il était resté immobile dans la voie des stands parce que, avec le temps minimal qu'il y a maintenant à faire quand on est en qualification pour pas bloquer la piste, bah, l'autre solution, c'est de ne pas sortir des stands, d'attendre finalement que l'écart se fasse. Alors, d'après toi, est-ce que...
Et on peut rappeler d'ailleurs qu'à Singapour, Verstappen n'avait pas du tout été pénalisé. Non, et que la FIA, une semaine plus tard, avait admis qu'il aurait dû l'être. Et
ils avaient mal géré, effectivement.
La question ne s'est même pas posée, puisque le samedi, pas d'enquête, le dimanche, pas d'enquête. La FIA a communiqué sur le fait qu'elle n'enquêterait pas sur le dépassement de Verstappen sur Leclerc. Et je trouve que ça pose la question de plusieurs choses, à la fois de ce que Verstappen a changé depuis qu'il arrive en F1, parce que, souvenez-vous, quand il arrive en F1, c'était un petit peu le vilain petit canard, parce qu'il avait un petit peu tendance à changer de trajectoire sur les zones de freinage, etc.
Ça, les autres ont bien compris comment il fallait faire maintenant.
Tout à fait, et j'ai envie de dire que les autres ont bien compris aussi qu'ils avaient beaucoup plus de liberté sur le dépassement, parce que là, on parle de Verstappen, parce qu'évidemment, c'est celui qui gagne, et c'est celui qui est le plus visible, entre guillemets. Mais c'est vraiment une tendance qu'on observe depuis plusieurs années et qui maintenant touche tout le monde, pas seulement Verstappen, même si lui, c'est vraiment propre à son style. Et ça, on ne peut pas le critiquer parce que c'est ce qu'il fait gagner. Mais il a un style qui est très agressif et qui se voit aussi sur certaines manœuvres.
Alors, en préparant ce podcast, tu me disais en fait le plus étonnant, c'est que maintenant, même les pilotes...
Exactement.
Accepte quelque part ou entérine le fait que bon bah c'est la nouvelle façon de courir et que bon bah on accepte cet état de fait. Charles Leclerc, il s'est pas indigné de la façon dont il a
exactement
été poussé.
C'est pour ça qu'on a intitulé le sujet. Y a-t-il trop de complaisance, pas seulement de la FIA mais aussi des autres pilotes, parce que Leclerc samedi après la course sprint a été interrogé en conférence de presse sur cette manœuvre. Et il a dit que non, il n'était pas spécialement choqué et qu'il aurait fait la même chose s'il avait été à la place de Verstappen.
On a regardé un autre dépassement qui a attiré aussi un petit peu notre attention, c'est du côté de Zandvoort.
Exactement, souvenez-vous, avec tout ce qui s'était passé en début de course avec la pluie, Verstappen qui était rentré beaucoup plus tard et qui avait dû faire une remontée, qui avait passé Gasly en le tassant, souvenez-vous, dans le banking, vraiment sur la peinture et en plus les conditions d'adhérence étaient vraiment minimales. Gasly, pareil, avait été interrogé en conférence de presse sur cette manœuvre et Gasly avait dit, bah, écoutez, c'est comme ça qu'est devenue la course, c'est comme ça qu'est la course aujourd'hui, on ne pénalise plus ce genre de manœuvre. Donc il y a une forme de, peut-être de fatalisme finalement autour de ces manœuvres-là. Et ce qui me dérange moi, c'est qu'on a d'un côté une FIA qui est hyper stricte sur les limites de piste, et à la limite, tant mieux. Alors que de l'autre côté, quand un pilote pousse un autre pilote en dehors des limites de piste, et ben là, il n'y a quasiment plus du tout de réaction, ou vraiment dans des cas extrêmes. Et c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est que on a une forme d'ambivalence qui est pour moi un petit peu dérangeante.
Oui, et puis si je peux compléter encore une fois, il y a aussi des moments où on sent bien qu'il y a une sorte de dérive. Alors c'est pas tout à fait le même cas de figure, mais on voit bien qu'il y a des pilotes qui maintenant décident de dépasser les limites de piste pour faire un dépassement sur un de leurs adversaires, en sachant très bien qu'ils vont prendre une pénalité de 5 secondes, mais en se disant qu'ils perdent moins à prendre une pénalité de 5 secondes qu'à rester bloqué quasiment tout un Grand Prix derrière un adversaire. Tout ça pour dire que finalement, ce n'est pas Max Verstappen qui est le plus visé. Les choses ont sans doute changé et qu'il va falloir à la fois pour la FIA revoir sans doute le barème des pénalités. Déjà, éventuellement en réinstaurer un, parce que c'est clair qu'à un moment, quand on gêne des pilotes en piste, même si c'est votre coéquipier ou même si c'est le représentant d'une équipe qui est affiliée à la vôtre, il faut que ça soit sanctionné et quelque part, voilà, que ça soit... sanctifié, t'as gêné, tu prends 3 places. Point. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à savoir si, comme ça a été le cas à Singapour en fait, hein, parce que la direction de course a écouté les pilotes, a écouté les échanges radio aussi, et on s'est aperçu qu'effectivement, Max Verstappen avait été averti trop tard par son équipe que la voiture de Yuki Tsunoda arrivait derrière lui. À un moment, il faut peut-être systématiser. Pour être plus précis que le mot sanctifié que j'employais, systématiser ce genre de pénalités et alourdir les pénalités, les sanctions aussi quand un pilote dépasse les limites de la piste et prend l'avantage sur un autre.
Et si on dézoome encore plus, on peut aussi comprendre que tout ça rentre dans la stratégie du Let Them Race, c'est-à-dire, laisser-les faire la course, qui est la stratégie appliquée depuis que la F1 a été reprise par Liberty Media. On se plaint, alors quand je dis on, je m'intègre pas dedans parce que moi c'est pas du tout mon cas, mais on se plaint du faible nombre de dépassements. Et donc de l'autre côté, on peut pas pénaliser des dépassements qui seraient limites. Je sais qu'il y a un point auquel toi tu tiens, Gilles, c'est que si ces manœuvres-là sont de plus en plus courantes, c'est aussi parce que le pilote qui tente la manœuvre sait que le pilote qui le dépasse se retrouvera pas coincé dans le bac à gravier parce que derrière il y a des zones de dégagement qui sont énormes et que donc finalement ça se tente entre guillemets.
Ouais, c'est jouable. En tout cas, ça rend jouable. On l'a évoqué des dizaines de fois dans les fous du volant. Ces dégagements bitumés, c'est une vraie plaie pour les Grands Prix parce que ce genre de manœuvre, ça n'arrive pas comme par hasard dans les virages où il y a un rail, où il y a un bac à gravier. Mais on le fait pas.
La manœuvre dont on parle sur la course sprint de samedi. Imaginez un rail sur la gauche, j'ai la quasi-certitude que Verstappen ne fait pas cette manœuvre-là. S'il fait cette manœuvre-là, c'est parce qu'il sait qu'il y a un dégagement énorme à la sortie de la voie des stands qui était teintée de rouge, si je ne dis pas de bêtises, sur laquelle Leclerc s'est retrouvé après avoir été tassé par Verstappen. Donc évidemment, ça joue et que si on avait des bacs à gravier partout, on n'aurait peut-être pas les mêmes conséquences.
Bon, on va voir... Moi, j'ai quand même le sentiment que tout ça, c'est en train de mûrir. Il faut rappeler que le nouveau patron de la FIA a quand même beaucoup de dossiers à gérer en ce moment et que tout ça, ça va prendre un petit peu de temps. J'ai le sentiment que... alors, on sait qu'il y a cette problématique, que certains circuits qui sont employés par la MotoGP et par la Formule 1 ont cette obligation d'avoir 2 mètres de dégagement bitumé au-delà du vibreur pour la sécurité des motards. On a vu d'ailleurs, on avait vu au Qatar quand même qu'ils avaient repeint des vibreurs à l'intérieur, qui est donc pas des vibreurs, qui est une sorte de partie de la piste qui est peinte en blanc et rouge. Et que là, on avait élargi la bande blanche sur un des
pour
virages.
Pour dire, non, c'est bon, c'est encore en piste.
On sera bientôt plus sponsorisé du côté de la F1 par des marques de pétrole, mais peut-être, je sais pas, par des marques de peinture. ça fera un petit peu moins rêver. Voilà, tout ça pour dire que, il y a des choses qui, en ce moment...
Ce qui ne remet en rien la supériorité de Verstappen, ce qui ne remet en rien ses succès, simplement, ça ne doit pas être une justification non plus. C'est pas parce qu'il est beaucoup plus fort que les autres et que le binôme Verstappen-Red Bull est supérieur aux autres, qu'on doit se dire de toute façon il l'aurait fini par le dépasser. Non, la F1 c'est pas ça, ça se joue sur la piste et c'est important que ça se joue encore le plus proprement possible.
Il va falloir encore travailler sur la cohérence. On va s'intéresser un peu plus maintenant à ce qui s'est passé justement sur la piste pendant ce Grand Prix des États-Unis avec Mercedes. On a appelé ça Mercedes tout feu. Tout faux, parce qu'on a senti qu'il y avait un feu particulier qui brillait chez Mercedes, et notamment pour Lewis Hamilton, qui a admis pour la première fois de la saison, samedi, il s'est passé quelque chose samedi dans le paddock, samedi, Lewis Hamilton s'est laissé aller à dire que les évolutions apportées à sa voiture étaient bénéfiques pour la première fois de la saison. Je souligne. Ok, d'accord, merci Lewis. Wow, ça va être la fête. Hein. Et du coup, troisième sur la grille de départ pour le Grand Prix de dimanche, Lewis Hamilton, il avait aussi pris le départ de la course sprint samedi, de la troisième place, et il avait fini deuxième, derrière l'inévitable Max Verstappen, qui lui était parti de la pole. Donc on se disait, il va se passer des choses dimanche, étant donné que pour le Grand Prix, Lewis Hamilton partait troisième, mais que Max Verstappen devait partir en sixième position. Là, potentiellement, il y avait vraiment quelque chose à jouer. Beaucoup pensaient que Norris avait des chances aussi de s'imposer, de réaliser ce que Carlos Sainz a fait à Singapour, c'est-à-dire battre Max Verstappen dans un week-end où on a senti très très vite le vendredi que c'était très compliqué en configuration Grand Prix. Samedi, c'était un petit peu particulier, il faisait un peu plus frais. Et au final, en qualification et en course, on a bien vu que Max Verstappen était intouchable. C'est pas passé loin pendant le Grand Prix, Jap. Hamilton termine à 2 secondes 2 de Max Verstappen. C'est passé tout près.
Oui, alors sur les 2 secondes 2, je pense qu'il faut aussi considérer le fait que Verstappen est certainement levé un petit peu le pied, d'autant qu'il a eu des problèmes de frein tout au long de cette course. Mais effectivement, c'est passé tout près et j'ai la conviction que Mercedes a pensé à la victoire à un moment dans la course. Alors ça a peut-être pas duré, ça s'est arrêté bien avant la mi-course.
Non, mais ça a duré juste ce qu'il a fallu pour qu'il ne gagne pas ce Grand Prix, en fait.
Ouais, exactement. Je pense que Hamilton était convaincu qu'il pouvait gagner. Et il y a eu, trois tours vraiment de flou, et c'est trois tours qui ont suffi à faire basculer la course en faveur de Verstappen. Parce qu'il y a eu trop d'hésitations sur le plan stratégique. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, Gilles.
On a la même lecture.
Parce qu'au 19e tour, Mercedes demande à Hamilton s'il est capable d'emmener ses pneus médiums 5 tours plus loin.
Putain, c'est ça qui est fou.
Alors,
5 tours. Genre, on lui dit pas un tour ou deux.
Voilà.
Est-ce que tu peux faire 5 tours de plus ? Non, mais les gars, je peux faire le Grand Prix si vous voulez, on y va.
5 tours, ce à quoi Hamilton répond impossible, je suis déjà en grande difficulté. Et d'ailleurs, tu l'as très bien remarqué, Gilles, sur les deux tours suivants, ses chronos s'écroulent. Ce qui montre quand même que ses pneus étaient en fin de vie.
Déjà au bout, ouais.
Il y a ensuite un arrêt au stand qui est vraiment pas maîtrisé. Je crois qu'on est à 3 secondes 6 d'arrêt.
J'ai tout repris. Parce que pour moi, Jab, excuse-moi, je te coûte.
Je t'en prie.
Pour moi, ce qu'on a vu là dimanche à Austin, ben, c'est que Mercedes n'est plus la grande équipe Mercedes en Formule 1. On a senti, et notamment quand Max Verstappen est rentré au stand au 16e tour, que là, il y a eu une sorte de flottement, tu disais un flou, oui, c'est une sorte de flottement où on s'est demandé s'il fallait couvrir la stratégie du Néerlandais. Je rappelle qu'il était parti 3 places derrière Lewis Hamilton, ou s'il fallait pousser ce premier relais plus loin pour éventuellement basculer sur une stratégie à un arrêt. Ils ont hésité et finalement, ils ont tout perdu. Et dans cette équipe Mercedes, pour moi, personne ne sort indemne de ce Grand Prix. T'évoquais les arrêts au stand chez Mercedes. Bah, pour moi, les mécaniciens, ils n'ont pas été bons dimanche. Parce que sur l'ensemble des deux passages au stand, hein, parce que finalement, Lewis Hamilton a fait deux passages au stand, tout comme Max Verstappen, on a perdu 1 seconde 09 avec la voiture immobilisée en plus, 1 seconde par rapport à Max Verstappen. Je rappelle que l'écart à l'arrivée, c'est 2 secondes 2. Hein. Il y a déjà 1 seconde 09 d'arrêt en plus pour la Mercedes par rapport à la Red Bull. Ensuite, bah, il y a le pilote. Le pilote, et là, il y a quand même un curieux hasard, tu le disais. Hein. On lui demande à la fin du 18e tour s'il peut faire 5 tours de plus avec ses pneus du premier relais. Jusque-là, il tournait en 1.42. Et à partir du moment où on lui pose cette question, il fait 1.43.5, 1.43.7. Pendant ce temps-là, Max Verstappen, qui lui s'est arrêté au 16e tour, un peu plus tôt, bah, lui, il fait des chronos en 1.40.8.
C'était le plus rapide en piste à ce moment-là.
À ce moment-là, très largement. Et ça fait 5 secondes 6 de perdu en 2 tours. Au total 1 seconde 09 plus 5 secondes 6 bah, ça fait 6 secondes 7 de perdu. Je rappelle que la course a été perdue pour 2 secondes et 2 dixièmes. La cellule stratégie pour compléter le topo, là clairement ce moment de flottement, ça a été dévastateur. Le départ de James Wolff, on en reparle encore chez Mercedes. Clairement, ça coûte beaucoup. Et puis l'équipe du simulateur qui n'a pas anticipé suffisamment l'usure du fond plat avec ses bosses qui, sur ce circuit, sont vraiment terribles. Et ça a conduit à la disqualification. Le sujet de la disqualification, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Mais voilà, c'est une sorte d'échec collectif chez Mercedes.
Oui, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, petit détail, mais quelques secondes seulement après avoir reçu ce fameux message radio, Hamilton fait un énorme blocage de roue juste avant.
Ah mais on a le sentiment que ça l'a sorti de son relais, quoi.
Totalement. Ce qu'on peut préciser, la première chose, c'est que Verstappen lui-même a dit au micro de nos confrères de Sky, si je ne dis pas de bêtises, que effectivement Mercedes aurait pu gagner ce Grand Prix.
Est-ce qu'il c'est dit pas ça pour retourner le couteau dans la plaie?
Est-ce qu'il dit ça pour montrer que sa victoire était plus difficile qu'elle n'en a eu l'air? Honnêtement, je ne pense pas, parce que 1, c'est pas son genre, et 2, il a plutôt tendance à se mettre en avant lui, plutôt que de dire, surtout Mercedes, aurait pu gagner cette course-là. Donc peut-être que c'est pour remuer le couteau dans la plaie. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Gasly a donné une petite anecdote après au micro de F1 TV, en disant, avant la course, Leclerc est venu me voir en me demandant si moi aussi j'allais tenter une stratégie à un arrêt. Je lui ai répondu qu'il était hors de question de tenter cette stratégie-là, parce que ça ne marcherait pas. Ferrari a tenté ce pari-là. Mercedes
sur Charles Leclerc.
Mercedes a songé à le tenter avec Hamilton, ce qui montre quand même que aujourd'hui Red Bull Verstappen génère tellement de peur, ou en tout cas focalise l'attention des écuries, qu'on se sent obligé de tenter des choses différentes, même quand Verstappen part depuis le sixième rang. Alors que là, évidemment, la bonne stratégie était de couvrir la stratégie de Verstappen, tout simplement. Alors, tout simplement, ça paraît simple maintenant, mais ça ne l'est pas tant que ça. Et Hamilton, lui aussi, était convaincu qu'il avait le rythme pour gagner. Et encore une fois, Hamilton est plutôt souvent très lucide sur ses performances,
sur
ce qu'il est en mesure
de faire.
Donc, on peut penser qu'effectivement, il y avait une porte entrouverte.
Et encore une fois, on peut imaginer que les derniers tours n'ont pas été faits à 100% de ce que Max Verstappen et son auto pouvaient donner. Donc, cet écart de 2 secondes 2, il est indicatif. Mais n'empêche que si on avait pu le pousser dans ses retranchements, qui sait ce qui se serait passé. Mais là, on s'est pris les pieds dans le tapis chez Mercedes. Et je disais que ce n'est pas l'équipe Mercedes de la grande époque. Il y a un chiffre qui résume ça et où on voit que finalement, cette équipe Mercedes, elle n'est plus tout à fait habituée à jouer la victoire. Sur les 40 derniers Grands Prix, Red Bull en a remporté 34. Mercedes en a remporté 1. Voilà, on en est là. 34 à 1. Enfin, c'est une statistique qui est dévastatrice pour la confiance d'une équipe, la confiance en soi. Le fait de se dire « non, mais on sait le faire ». Peut-être que dans un coin de sa tête, on se dit est-ce qu'on sait toujours le faire ?
Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que Mercedes a longtemps été irréprochable sur tout ça, sur la stratégie, sur les aérostands, sur l'exécution, etc. Elle l'a été quand elle était l'incontestable meilleure écurie
avec
du championnat.
Avec le duo Hamilton-Rosberg et après avec Hamilton-Bottas.
Ce qui n'empêchait pas à ce moment-là Red Bull de réussir des coups justement sur la stratégie, sur des choses bien exécutées. Et Red Bull, finalement, a gardé cette dynamique-là maintenant qu'elle est la meilleure écurie du plateau, alors que Mercedes, qui se retrouve non plus en position de chassé, mais de chasseur, c'est plus compliqué. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre à quel point la confiance et finalement l'ADN d'une écurie sont importantes pour toutes ces choses-là, ces petits détails qui font la différence.
Ah, ça reste dans les moments de vérité. Et clairement, Red Bull a fait une course absolument parfaite pour Max Verstappen. Et c'est comme ça qu'il est allé chercher ce Grand Prix où il a vraiment souffert, où la voiture était moins bien parce qu'avec ses bosses, il fallait relever le fond plat de la voiture, qu'en plus, il y a eu des problèmes de frein. Enfin, c'était vraiment très, très compliqué. Et pour en terminer avec cette histoire de Mercedes, je me dis, mais finalement, heureusement que Lewis Hamilton n'a pas franchi la ligne d'arrivée en première position, t'imagines ? Hop, on le fait monter sur le podium, et vas-y, God save the King, ouais, Lewis Hamilton, sixième victoire à Austin et tout. Ah bah non, la voiture, elle n'est pas conforme, disqualifiée, ça aurait été dramatique, encore plus dramatique que de perdre une deuxième place.
Mais d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il faut prendre du recul vis-à-vis de cette question, est-ce qu'Hamilton aurait pu gagner dimanche ? À partir du moment où sa voiture n'est pas conforme, la question tient moins finalement parce qu'on peut aussi estimer que si Verstappen n'a pas eu ce problème-là, on va en reparler juste après, mais si Verstappen n'a pas eu ce problème-là sur sa monoplace, c'est aussi parce qu'elle était plus haute et que forcément elle était moins performante.
Eh ben on va en parler justement de ces histoires de disqualification. Ça sera le troisième sujet dans notre podcast Les Fous du Volant aujourd'hui. Deux disqualifications à la fin de ce Grand Prix des États-Unis à Austin pour Lewis Hamilton qui avait franchi la ligne d'arrivée en deuxième position et pour Charles Leclerc qui lui était parti de la pole et avait terminé à la sixième place avec une stratégie déjà qui était un petit peu compliquée du côté de chez Ferrari. On avait décidé de lui faire faire un seul arrêt, on avait mis ses œufs dans deux paniers différents chez Ferrari.
Et chez Ferrari, on s'est réveillé encore plus tard que chez Mercedes.
Ah oui, là, clairement. Alors, on va expliquer cette histoire de disqualification. Pour ceux qui suivent la Formule 1, ce que je vais dire, c'est une évidence, mais il y a souvent des nouveaux, donc on va leur expliquer. Sous les monoplaces de Formule 1, il y a un patin en bois qui est installé et qui permet au commissaire technique de vérifier si les voitures ne sont pas trop basses et si elles ne frottent pas trop au sol. Donc c'est une planche en bois tout bête, ce qui tranche un peu avec la modernité du carbone et des Formule 1.
C'est de la résine d'ailleurs, c'est du bois composite.
Voilà. Bon, en tout cas, la densité est très, très réglementée, le mode de fixation aussi très, très réglementé, et l'épaisseur, je crois que ça ne doit pas passer sous les 9 mm à la fin du Grand Prix. Si vous êtes curieux, c'est l'article 3.5.9 alinéa E du règlement technique de la Formule 1 2023. Si vous avez du temps à perdre, allez-y, je l'ai fait ce matin. Donc les commissaires, ils contrôlent qui ils veulent, quand ils veulent. Et donc après le Grand Prix, c'est des gens qui sont intelligents, hein, qui connaissent bien la Formule 1. Ils savaient qu'avec ce Grand Prix sur ce circuit d'Austin, où si vous avez une dent mal accrochée, vous êtes tranquille, ça vous la décroche. Ils savaient qu'avec les bosses, il y aurait un problème d'usure sur certaines voitures. Et il paraît même qu'à l'odeur, ils font ça à l'odeur. Parce qu'il y a des plaques de titane sous les autos et que le titane, quand il frotte, il dégage une odeur particulière et que c'est comme ça que certains commissaires repèrent en disant « Tiens, fais-moi passer cette voiture ». Donc là, une forme de logique, ils ont fait passer au contrôle les trois voitures qui terminent sur le podium. Verstappen, Hamilton j'ai un problème, il faut que je la fasse. Chuck Norris, parce qu'on est au Texas. Donc voilà. Donc Lando Norris, évidemment. Et puis, bah, on choisit au hasard, donc à mon avis, au nez, Charles Leclerc. Et donc, sur ces quatre voitures, deux ne passent pas, celle de Lewis Hamilton et celle de Charles Leclerc, qui sont carrément disqualifiées du Grand Prix parce que cette planche qui est en bois, effectivement, et qui est en résine, elle a été trop usée. Donc, on est en dehors du règlement et la sanction, elle est claire, c'est disqualification. Ça, moi, ça me fait poser deux questions. La première question, c'est, on en contrôle quatre des voitures, et donc la moitié des voitures n'est pas conforme. Ben, il faut continuer, les gars, il faut contrôler les autres, parce que ça veut dire qu'il y a quand même des chances importantes pour que, à l'arrivée, il y ait d'autres voitures qui soient en dehors des clous. Et non, on s'arrête là. Ben non, c'est bon, on en a deux, merci, salut.
Oui, parce que c'est malheureusement une question de temps. Tout simplement. Alors, pour faire simple, le dossier qui a été diffusé à presse, après ces analyses-là, il fait déjà 5 ou 6 pages, je crois. Il y a un nombre incalculable de points qui ont été checkés par les commissaires de la FIA. Et il n'y a tout simplement pas le temps de checker les 20 voitures ou même 10 voitures parce que...
On est derrière, en back-to-back.
Exactement. Derrière, il faut remballer les voitures et préparer le voyage pour le Mexique. Donc, on fait ça aléatoirement, alors sans que ce soit vraiment aléatoire, puisqu'évidemment on prend les trois voitures du podium. Et effectivement, il n'y a aucun point de règlement qui impose que la voiture du coéquipier soit contrôlée si une voiture apparaît hors du règlement.
Moi, voilà. Je pose la question quand même, est-ce qu'on ne peut pas prendre un tout petit peu de temps? C'est quand même pas très... Ça prend pas 4 heures, hein, à un moment... Surtout quand on est comme ça dans une configuration où on voit bien qu'il y a quand même un truc, il y a un loup. Quatre voitures, on a donc contrôlé les trois premiers plus le sixième. Ben, moi, je pose la question. Et le quatrième et le cinquième, alors?
Bah, ce sont les grands gagnants.
Ça, c'est clair.
Non, mais alors, effectivement, c'est de la supputation. On ne peut pas dire la voiture de Carlos Sainz était hors du règlement.
Mais on ne sait pas.
Mais on ne sait pas, exactement. Il y a un doute.
Et c'est valable pour Carlos Sainz, mais c'est valable pour
tout à fait.
Tous les autres. Hein. C'est pas, voilà, on vise pas l'Espagnol. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, alors on décrète que les autos de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc n'étaient donc pas en conformité avec le règlement pour le Grand Prix. D'accord. Mais elles étaient en conformité avec le règlement pour la course sprint ? Sachant que entre la course sprint et le Grand Prix, les autos elles sont en parc fermé, elles n'ont pas bougé, c'est les mêmes.
Oui,
non, donc par magie, la voiture elle est devenue non conforme.
On peut aussi estimer que le plancher, enfin cette fameuse planche a tenu pour le sprint et n'a pas été pour la course. D'ailleurs, c'est l'une des justifications données à la fois par Mercedes et Ferrari, c'est que si on n'a pas pu anticiper ce problème, c'est parce qu'on a eu trop peu de séances d'essai et qu'on n'a pas pu bien jauger l'impact des fameuses bosses d'Austin, parce qu'Austin est un circuit formidable, mais c'est un circuit qui est construit sur du sable mouvant.
Ben oui, bah sur du sable déjà.
voilà. Et donc il y a beaucoup de bosses, et effectivement ça a eu un impact plus important. Alors, les écuries le savaient déjà, certaines ont réussi à prendre leurs précautions, Red Bull, Verstappen, etc. D'autres ont peut-être un petit peu trop joué avec la limite, et n'ont pas bien jaugé tout ça, donc ont été pénalisés finalement.
Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour éviter que cette planche s'use trop, bah, logiquement, vous remontez un petit peu le niveau de la voiture. Ça veut dire que vous dégradez les performances de votre monoplace. C'est pour ça que, voilà, c'est une des explications possibles de la relative difficulté qu'a eu Max Verstappen à remonter de la sixième place jusqu'à la première position. Mais ça veut dire qu'on était bien conscient chez Red Bull qu'il y avait ces bosses et qu'il fallait relever la voiture. Alors effectivement, comme on est sur un week-end sprint, il n'y a qu'une séance d'essai libre le vendredi et l'après-midi, c'est directement la qualification en vue du Grand Prix. Traditionnellement, sur les week-ends classiques, le vendredi après-midi sert à faire des longs runs pour estimer comment la voiture se comporte. Mais forcément, on fait des projections et on regarde évidemment l'usure de ces planches-là et on extrapole ensuite ce que ça va donner pendant le Grand Prix avec une charge maximale sur le premier relais en carburant. Là, on peut pas le faire. Il y a beaucoup d'équipes en termes de simulation là, qui se sont fait piéger. Ça a été le cas pour Mercedes. Et ça... Oui, je dis il y a beaucoup d'équipes. Il y en a au moins deux.
Oui.
Et non des moindres, Mercedes et Ferrari. C'est quand même pas des peintres, quoique, puisqu'on poursuit. ça devient un métier en vogue
en Formule 1.
Je veux dire, à un moment, il va falloir vraiment se poser la question de ce qu'apportent ces week-end sprints. Je suis désolé, hein, c'est une marotte, mais... par rapport à ce que ça provoque comme souci. Et moi, ma frustration, Jap, je vais te le dire, c'est que quand tu regardes la grille de départ du Grand Prix, avec Charles Leclerc en pôle, avec Max Verstappen 6e, que tu regardes le résultat, si tu n'as pas vu le Grand Prix, tu te dis « on va se régaler à regarder ça en replay, il a dû se passer plein de choses ». Ben non, à l'arrivée, c'était quand même assez ennuyeux comme Grand Prix. Il n'y a pas grand-chose de lisible, en fait. Il faut vraiment creuser, écouter les fous du volant pour comprendre qu'il s'est passé plein de choses. Mais sous la surface, à un moment, pour la Formule 1, ça va finir par poser problème. Aux États-Unis, je rappelle qu'on va y retourner encore une fois à Las Vegas. Le déroulement de ce Grand Prix-là, je ne suis pas sûr que ça soit... un super teasing pour le Grand Prix de Las Vegas.
Mais alors, c'est un autre sujet et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais la question de l'intérêt de la course sprint s'est vraiment reposée samedi parce qu'on constate que finalement, ça n'a pas de gros intérêt ou en tout cas, ça ne génère pas vraiment de surplus de demande de tickets pour le samedi. Christian Horner, lui, a carrément dit qu'il voulait en venir aux grilles inversées. Alors, là encore, on en a déjà parlé, mais on aura l'occasion d'en reparler.
Et moi, Christian, je lui propose, on tire au sort les voitures. Comme ça, au moins, allons-y dans les idées.
Non, mais on aura l'occasion d'en parler. Mais effectivement, la question se pose de plus en plus et ça va devenir un vrai gros sujet. Parce que là, même les patrons d'écurie, même la Formule 1 s'interrogent vraiment sur l'intérêt des courses sprint. On aura de toute façon l'occasion d'en reparler puisqu'on aura un nouveau sprint au Brésil, c'est début novembre, si je ne dis pas de bêtises, puisque enfin, c'est la suite de l'enchaînement. On a trois grands prix consécutifs.
Ça sera la fin du triple header. Là,
tout à fait, et donc je pense que ça va très vite redevenir un sujet, y compris pour nous, fou du volant.
Exactement. Bah voilà ce qu'on pouvait dire de ce Grand Prix des États-Unis qui n'a pas été le plus spectaculaire alors que sur le papier, cette grille de départ, elle était quand même ultra intéressante.
Il y avait des promesses, ouais.
Ouais, bon, voilà.
Promesses non tenues.
Exactement. Ça arrive en sport et c'est un peu la teneur de notre discours. Hein. C'est pas le jour de l'an tous les jours en sport. Il y a parfois des matchs, des courses où on vibre un petit peu moins. Ça a été le cas pour ce Grand Prix des États-Unis. Ah, quelque chose me dit que le Mexique va relever un petit peu tout ça. C'est pimenté au Mexique. Non, mais rien que de voir déjà.
Il pouvait pas s'en empêcher.
Bah non, mais rien que de voir déjà comment va se comporter Sergio Pérez qui a repris des points mine de rien. Lewis Hamilton. Tiens. Les horaires du Grand Prix du Mexique, parce qu'on enchaîne, hein, on ne faiblit pas et on va rester dans le décalage horaire. 19h30, la première séance d'essai libre, vendredi, 23h la seconde. Samedi, dernière séance d'essai libre, ça sera 18h30, la qualif à 22h et enfin le Grand Prix dimanche à 21h. Vous avez rendez-vous dans les premières heures de mardi matin pour retrouver votre podcast Les Fous du Volant sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On va se quitter sur ces belles paroles, mon cher Jap. La semaine prochaine, on retrouve Stéphane Vrignot.
Qui sera revenu du Texas et de ses chorégraphies texanes.
Ouais, exactement. Il nous fera peut-être une petite danse, non ? Je sais pas ce que t'en penses.
Faudra lui demander.
On verra ça. Et d'ici là,
on coupe le contact.